d'aujourd'hui. À Washington.
Eric Manilakiza en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, lundi 21 octobre 2019. Bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel. D'abord, les titres. 9 civils tués hier soir dans le nord du Burkina Faso. Faible mobilisation à Kinshasa pour une manifestation contre la corruption. La Turquie envisage une zone de sécurité dans le nord-est de la Syrie. Les Canadiens se rendent aux urnes pour élire leurs 338 députés. Et dans 10 minutes, votre page des sports et l'actualité économique. Mais d'abord, le journal. Nouvelles attaques dans le nord du Burkina Faso. 9 civils ont été tués hier soir dans un village de la province du Bam. Et une deuxième attaque a été repoussée à Balsalogo. Claire Morin-Gibourg.
L'attaque du village de Zoura, non loin de Kongoussi, a fait 9 morts. Selon un témoignage, des hommes armés ont commencé à tirer juste avant le couvre-feu. Ils ont saccagé une boutique et emporté du bétail. Hier soir, une autre attaque s'est produite à Barsalogo, dans la région du centre-nord. Les forces de l'ordre ont pu repousser les assaillants. Samedi, 5 membres des forces de l'ordre ont été tués et 11 autres blessés lors d'une double attaque, toujours dans le nord. Le nombre de déplacés vers Kongoussi ne cesse de croître. Selon des chiffres du ministère de l'Action sociale, la région du centre-nord enregistre plus de 270 000 déplacés internes. Les attaques attribuées à des djihadistes sont de plus en plus fréquentes et meurtrières dans le nord et dans l'est du pays. Elles ont fait plus de 620 morts cette année.
Claire Morin-Gibourg, procès de cette militaire camerounaise, une nouvelle fois renvoyée au 4 novembre. Ces militaires sont accusés d'avoir froidement tué en 2015 deux femmes et leurs enfants dans le nord du Cameroun. Les 7 militaires ont plaidé non coupables lundi. En République démocratique du Congo, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Kinshasa contre la corruption à l'appel d'un collectif catholique soutenu par l'opposition. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les manifestants, peu nombreux, se sont rassemblés en différents points de Kinshasa à l'appel du comité laïque de coordination, un collectif proche de l'Église catholique. Le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Eve Bazaïba, était à la tête des manifestants dans le quartier de Kigabwa. Ils arboraient des banderoles où étaient inscrits « Non à l'impuissance de la justice » où sont nos 15 millions de dollars. « Nous ne voulons plus de la corruption, pas d'impunité » a déclaré Isidore Ndawel, coordinateur du CLC. En juillet, une enquête de l'inspection générale a révélé que 15 millions de dollars du fonds public n'ont pas été versés au trésor public, mais sur un autre compte. Cette manifestation n'a pas drainé autant de monde que fin 2017, début 2018, lorsque ce collectif appelait à des manifestations contre Joseph Kabila. Elle est la première du CLC sous le mandat du président Félix Tshisekedi, investi en janvier.
Une cinquantaine de civils congolais ont été tués depuis janvier dans des attaques à répétition de rebelles centrafricains anti-Balaka contre des villages dans le nord-ouest de la RDC. Ces anti-Balaka font des incursions en terre congolaise et repartent avec des chèvres, des vaches, mais souvent ils pourchassent aussi leurs compatriotes réfugiés en RDC, a indiqué Isato Nzege, gouverneur de la province du Nord Ubangi. Un ex-ministre du Burundi et son épouse ont été condamnés lundi à 2 ans de prison avec sursis et 70 000 euros de dommages et intérêts pour avoir exploité pendant 10 ans un compatriote à leur domicile de la région parisienne. Les deux septuagénaires qui avaient clamé leur innocence à l'audience vont en toute hypothèse faire appel, a indiqué leur avocate Dominique Navo-Duchesne. Le Botswana vote mercredi pour des élections générales. Contre toute attente, l'ancien président du pays, Ian Khama, a secoué la vie politique locale, jusque-là bien rangée, en prenant la tête d'une fronde contre son successeur, Mokgweetsi Masisi, qu'il avait pourtant installé dans son fauteuil. Un an après avoir rendu les rênes du pays, M. Khama a claqué en main la porte de son parti démocratique du Botswana, en accusant M. Masisi de dérive autoritaire. Le maire de Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, a annoncé lundi sa démission et son départ du principal parti d'opposition du pays en lui reprochant son approche de la question raciale, toujours très controversée dans le pays. Des milliers de Soudanais se sont rassemblés lundi dans plusieurs villes du pays, dont Khartoum, pour réclamer aux nouvelles autorités du pays de dissoudre l'ancien parti au pouvoir. Une foule d'hommes et de femmes se sont rassemblés à Khartoum, dans la ville voisine d'Omdurman, à Madani, à Port-Soudan et à Zalinj, pour exprimer leur soutien aux nouvelles autorités chargées de la transition vers un régime civil. Ces rassemblements commémorent par ailleurs le soulèvement du 21 octobre 1964 qui avait renversé le chef militaire de l'époque, Ibrahim Aboud. Le gouvernement soudanais a autorisé lundi la fourniture d'aide humanitaire aux régions du pays déchirées par la guerre et a renouvelé un cessez-le-feu avec les principaux groupes rebelles. Des pourparlers sont en cours depuis la semaine dernière à Djouba entre le nouveau gouvernement de Khartoum et des rebelles du Darfour, des États du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Les nouvelles autorités de transition se sont engagées à ramener la paix dans ces zones de conflit.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie a fait savoir qu'elle mettrait en place une zone de sécurité de 120 km de long dans le nord-est de la Syrie dès la fin du retrait des forces kurdes au terme d'une trêve expirant mardi à 19h en temps universel. Nathalie Barge.
L'armée turque a fait savoir que la mise en place d'une zone limitée à 120 km dans un premier temps commencerait dès mardi soir si le retrait des milices kurdes est achevé conformément à l'accord conclu la semaine dernière. Cette zone de sécurité s'étendra des villes de Tal Abyad à Ras Al Ain, puis sera élargie à 440 km. 125 véhicules ont quitté les territoires contrôlés par les Kurdes depuis le début de la trêve. Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré vendredi que la Turquie prévoyait d'établir 12 postes d'observation en Syrie. L'Iran, engagé militairement aux côtés du régime syrien, a qualifié d'inacceptable toute initiative de la Turquie visant à établir des bases militaires en Syrie. L'opération turque est suspendue depuis jeudi à la faveur d'une fragile trêve de 120 heures négociée par le vice-président américain Mike Pence après des entretiens avec le président turc à Ankara.
Le président Donald Trump a annoncé lundi qu'il restait un petit nombre de soldats américains en Syrie alors que les troupes ont quitté le nord-est du pays comme prévu. Le président des États-Unis a précisé que ces soldats se trouvaient dans une partie totalement différente de la Syrie, près de la Jordanie et d'Israël, tandis que d'autres étaient déployés pour protéger le pétrole, c'est-à-dire à proximité de l'Irak. Le président français Emmanuel Macron a souligné lundi, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, l'importance de la prolongation du cessez-le-feu dans le nord-est de la Syrie, ainsi que d'une sortie de crise par des moyens diplomatiques. Cet entretien est intervenu à la veille de la rencontre prévue mardi à Sochi, en Russie, entre le président russe et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Mark Esper, est arrivé lundi à Kaboul pour une visite surprise. Le chef du Pentagone a assuré que les Afghans ne devraient pas percevoir le retrait soudain et quasi total des forces américaines de Syrie comme un précurseur de ce qui attend l'Afghanistan. Les Canadiens sont appelés aux urnes pour décider qui formera le prochain gouvernement. Ils devront choisir entre Justin Trudeau, le premier ministre sortant, et le jeune conservateur Andrew Scheer. Bagasikoura pour plus de précisions.
Les premiers bureaux de vote ont ouvert ce matin à Terre-Neuve-Labrador, dans l'est du pays. Dans un pays qui s'étale sur 6 fuseaux horaires, les derniers électeurs voteront en Colombie-Britannique, dans l'ouest, jusqu'à 2h temps universel ce mardi. Les premiers résultats sont attendus dès ce soir à partir de 23h temps universel. Quelque 27,4 millions de Canadiens sont appelés à élire leurs 338 députés à l'issue d'une campagne électorale qui a été souvent tendue. Selon les sondages, les électeurs vont mettre fin à la majorité absolue dont dispose le premier ministre sortant depuis sa victoire surprise en 2015. La campagne s'est achevée comme elle a commencé quelques 40 jours plus tôt. Les derniers sondages placent le Parti libéral du premier ministre Trudeau entre 31 et 34 % et les conservateurs entre 32 et 33 %. Ces chiffres ne permettraient à aucun de ces deux partis de franchir la barre des 170 sièges qui garantit une majorité absolue. Le futur Premier ministre devra donc compter sur l'appui de plus petits partis pour obtenir une majorité à la Chambre des communes.
Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique, suivez la Minuteco avec Nanit Talani.
Le groupe français de télécommunications Orange va vendre sa filiale au Niger. La totalité de ses actions seront reprises par la société Zamanicom SAS. Orange Niger emploie 530 salariés et compte 2,4 millions de clients. Les employés s'étaient mis en grève face à l'incertitude sur leur avenir. Le gouvernement nigérien initie un projet de décret pour transférer la licence d'exploitation entre les deux sociétés. Il n'y a eu aucune précision sur le montant de l'opération entre Orange et Zamanicom. Le Rwanda et la République centrafricaine ont signé plusieurs accords relatifs à la coopération militaire et à l'extraction minière et pétrolière. Ces accords incluent un contrat sur les investissements, la promotion et la protection entre le ministère centrafricain du commerce et l'industrie et la direction rwandaise du bureau de la promotion du développement. Le gouvernement tanzanien a révisé 5 exigences de China Merchant Holdings International relatives au projet du port de Bagamoyo d'une valeur de 10 milliards de dollars. La société aura un bail de 33 ans au lieu de 99 ans et n'aura pas de statut spécial. China Merchant ne pourra ni démarrer ni gérer aucune activité dans le port sans l'accord du gouvernement.
Sans tarder, nous allons passer à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Dénouement ce week-end des qualifications pour le prochain championnat d'Afrique des Nations.
On connaît maintenant tous les qualifiés pour la phase finale, les 15 équipes qui rejoignent le Cameroun, pays hôte de la compétition. On note le retour de la République démocratique du Congo, la nation la plus titrée de l'histoire du CHAN, qui était absente lors de la dernière édition qui a eu lieu au Maroc. Et puis, bourreau des Léopards, il y a 2 ans, le Congo Brazza sera lui aussi de la partie, après avoir battu 1-0 la Guinée équatoriale.
Et la Guinée dame encore le pion au Sénégal.
C'est la 3e fois de suite que le Sili national élimine les lions locaux de la Teranga. De son côté, le Mali a pris sa revanche sur la Mauritanie qui l'a privé de ce tournoi il y a 2 ans, d'où la satisfaction du coach des aigles locaux, Noum Diani.
Nous avons préparé les joueurs sur le plan mental, on les a dit de tout donner. Après, si vous remarquez sur le plan technique, je pense qu'on avait un plus par rapport à cette équipe-là.
Noum Diani, sélectionneur du Mali au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Qualification également du Niger aux dépens de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso qui a conservé un avantage acquis à l'aller 1-0 contre le Ghana.
Yacouba, on note aussi la grande première pour le Togo.
Et oui, les éperviers disputeront le CHAN pour la première fois de leur histoire après avoir écarté le Nigeria, pourtant finaliste de la précédente édition. Le Maroc sera aussi présent pour défendre son titre après sa victoire 3-0 devant l'Algérie. Ce fut le grand derby maghrébin remporté par les Lions de l'Atlas locaux, au grand bonheur de leur coach Assine Amouta.
Nous avons essayé en général d'ignorer un petit peu les déclarations des Algériens parce qu'un match de football se joue sur le terrain. Je crois que nos garçons aujourd'hui ont fait le nécessaire. On a été vraiment présents et on a dirigé le match comme on le voulait. Surtout, le timing des buts était vraiment excellent.
Assine Amouta, sélectionneur du Maroc au micro d'Amine Birouk. La Tunisie s'en est aussi sortie face à la Libye. Le Zimbabwe a dominé le Lesotho. L'Ouganda a eu raison du Burundi. La Zambie s'est qualifiée aux dépens de l'Eswatini. Le Rwanda, malgré quelques frayeurs, a pris le dessus sur l'Éthiopie et la Tanzanie sur le Soudan. En revanche, Madagascar ne disputera pas cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur pays, puisque renversée par la Namibie 2-0, la compétition aura lieu au Cameroun, mais jusque-là, la CAF n'a pas encore donné sa date de tenue.
Du handball avant de nous quitter, Yacouba. Le tirage au sort de la CAN 2020 a été effectué à Tunis.
Et bien sûr, la Tunisie, pays hôte et champion d'Afrique en titre, évoluera dans le groupe C en compagnie du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Cap-Vert. Dans la poule A, la RDC, la Guinée et le Kenya vont se mesurer à l'Égypte. Le groupe B est composé de l'Angola, du Gabon, du Nigeria et de la Libye. Et enfin, le Congo, le Sénégal, la Zambie, l'Algérie et le Maroc sont logés dans le groupe D. La compétition aura lieu du 16 au 26 janvier 2020 en Tunisie et permettra aux vainqueurs d'être qualifiés pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eric Manilakiza, de retour avec vous, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Les forces de défense maliennes, avec l'appui des partenaires dans la zone de Boulkessi, ont mené des frappes aériennes et opérations terrestres. C'est ce qu'a annoncé ce week-end l'état-major général des armées. Les attaques simultanées de Mondoro et Boulkessi ont provoqué d'énormes dégâts dans les rangs des FAMA et des assaillants. Les précisions de Mamoudou Bokoum.
Après les attaques simultanées de Mondoro et de Boulkessi, des actions sont menées sur le terrain. Des actions qui ont donné, selon la hiérarchie militaire, des résultats probants. Colonel-major Oumar Diarra, commandant du théâtre du centre de l'opération Dambé.
Le bilan actualisé est le suivant. À peu près 80 ennemis neutralisés, une centaine de blessés, des matériels détruits et un important pôle logistique de 35 fûts de carburant détruits. Côté ami, 40 morts, 36 rescapés, dont 17 évacués, 13 sur Bamako et 4 actuellement à Sévaré. 2 rescapés retrouvés au Burkina et acheminés à Bamako le 15 octobre.
À ce bilan, il faut ajouter le cas des disparus, comme le signale le colonel-major Oumar Diarra.
18 éléments, dont 14 parachutistes et 4 gendarmes, qui devaient rejoindre Boulkessi après des formations pour certains et des permissions pour d'autres, étaient en fait présents à Mondoro et Dinangourou. Ils ont été désengagés du théâtre, des opérations et ont rejoint leur famille. Donc à l'heure actuelle, à la lumière de ce qui précède, le bilan des portées disparues est revu à la baisse avec un chiffre de 27 militaires tout au plus.
Dans cette conquête du Fort 11 de Boulkessi, il y a eu l'apport des partenaires. Mais pour plus de résultats, le général Babi veut la promptitude et l'optimisation de toutes les capacités disponibles.
Le travail avec les partenaires est à saluer et les encourager davantage à ce qu'on évite parfois une lenteur et parfois la limitation même dans l'emploi de certaines capacités. C'est un dialogue que nous allons continuer avec les partenaires pour que, effectivement, les capacités qui sont disponibles soient optimisées pour les besoins d'opérations et de sécurisation dans notre pays et nous assurer que vraiment nous stabilisions ensemble les efforts entrepris et que nous continuons à lutter ensemble en mobilisant les capacités et dans les délais requis.
Il faut noter que le commandement militaire a confirmé la présence des femmes aux côtés des assaillants à Boulkessi. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, c'est un festival particulier, un vent de liberté. C'est le nom de ce festival qui se tient depuis 10 ans dans les prisons. L'objectif est d'apporter une certaine humanisation dans les prisons et de formuler des plaidoyers en faveur des prisonniers qui sont dans des conditions de détention précaires. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Des milliers de détenus dans le plus grand établissement pénitentiaire du pays, la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Des musiciens se succèdent sur le podium dressé à l'occasion. Nous sommes au festival Un Vent de Liberté. Parmi les musiciens, Johnny, cet ex-prisonnier converti aujourd'hui à la musique.
J'étais à l'école, bon l'école n'a pas aussi marché.
Jonathan Sigue dit Johnny.
J'ai un peu déraillé la mauvaise compagnie et tout, jusqu'à ce que je me retrouve en prison. Et dans mes chansons, mais premier morceau, bon, je parle de ma propre mère d'abord. Parce que c'est une, réellement, je l'ai fait beaucoup souffrir. Par mes actes, la prison et consort. Faire la pareille, se retrouver quelques années ici de retard, ça ne sert pas.
Depuis 10 ans, le festival se tient dans les prisons au Burkina. Dans la mission de l'administration pénitentiaire, il y a non seulement la garde, mais aussi la réinsertion sociale des détenus.
Toute activité qui peut amener le détenu à se sentir utile à lui-même et puis utile à la société, là, nous prenons ces activités-là.
Claude Ouedraogo, régisseur de la MACO.
Les activités de loisirs, la musique, là, ça adoucit les mœurs. Au-delà de cela, ça prépare l'homme même à mieux s'organiser pour à enclencher des activités. La prison n'est plus le milieu où on incarcère seulement sans préparer la réinsertion sociale là.
Les organisateurs, à travers un vent de liberté, veulent interpeller les autorités à se pencher sur les dures conditions de détention des prisonniers. Freeman Tapilier, le promoteur du festival.
Nous, en tant qu'organisateurs, moralement, on est satisfaits. En 10 ans, il y a beaucoup de témoignages que nous avons réussi à entendre de leur part et nous sommes vraiment satisfaits. Nous, on pense qu'il faut doter toutes les maisons d'arrêt de correction en serviettes hygiéniques pour les femmes qui sont indisposées quand elles sont incarcérées. Là, nous interpellons le ministère de la Femme, le ministère des Droits Humains, le ministère de la Justice, même la présidence, l'Assemblée nationale. Il faut prendre une loi claire pour qu'on d'autres les maisons d'arrêt en serviettes hygiéniques. Parce que c'est la dignité féminine. Il faut aussi qu'on traite le cas des enfants, des bébés qui sont dans les maisons d'arrêt de correction. Il faut qu'on prenne une décision claire. Et puis l'hygiène dans les maisons d'arrêt de correction.
10 prisons seront sillonnées pour ces 10 ans du festival Un vent de liberté. Au programme, des spectacles et des repas au profit des prisonniers. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
La Russie a été active sur le continent africain ces dernières années. Moscou a reconnu que des Russes se trouvaient à bord de l'avion qui s'est écrasé récemment en RDC. Des Russes ont aussi été tués lors de batailles en Libye. Le président Vladimir Poutine accueille cette semaine des dizaines de chefs d'État africains à Sotchi pour une conférence de 2 jours. C'est le premier grand rassemblement de dirigeants africains en Russie depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. Le point avec Lionel Lunanira Gahima.
Le sommet se tient à la station balnéaire de Sotchi, un joyau qui a coûté 1 milliard de dollars pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2014. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin.
La Russie a des choses à offrir en termes de coopération mutuellement bénéfique avec les pays africains.
La présence russe sur le continent était négligeable depuis la fin de l'Union soviétique en 1991, mais au cours de ces dernières années, la Russie est revenue sur le continent pour raviver les liens anciens et forger de nouvelles relations. Paul Stronsky, analyste au Carnegie Endowment, un groupe de réflexion basé dans la capitale américaine.
L'Union soviétique a apporté son soutien au mouvement de libération en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau. Elle s'est impliquée dans les conflits de l'Ogaden ou a aidé le régime marxiste éthiopien. Mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, toutes ces relations ont été brutalement interrompues.
Les dirigeants de l'Angola, où la Russie a investi dans le diamant et ceux de l'Éthiopie, seront parmi les 10 000 invités venus de 35 pays africains. Le Nigeria, où les Russes ont investi dans le pétrole et le gaz, sera représenté tout comme le Ghana. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le commerce avec les pays africains a augmenté de 350% pendant la dernière décennie. Les entreprises russes participent à des grands projets comme la construction de la première centrale nucléaire en Égypte ou la mise en valeur d'immenses gisements de minéraux au Zimbabwe. En Guinée, l'ambassadeur russe à Conakry, Alexandre Bregadze, a ouvertement soutenu le président Alpha Condé pour modifier la constitution afin de remplir un troisième mandat. Il sera rappelé à Moscou avant d'être renvoyé en Guinée comme directeur général de Rusal, la société russe d'aluminium qui tire les tiers de sa bauxite en Guinée. Édouard Lucas, auteur de La Nouvelle Guerre Froide, la Russie de Poutine et la menace de l'Occident.
Les technologues politiques russes offrent des conseils d'experts sur tous les aspects de la fraude électorale, de la corruption à la propagande en passant par les cyberattaques. Les mercenaires renforcent la sécurité.
Au cours des 5 dernières années, la Russie a conclu 23 accords de coopération en matière de sécurité avec des gouvernements africains. Elle est devenue le plus gros fournisseur d'armes du continent. Moscou propose son expertise en matière de sécurité, des militaires russes et les spécialistes de la désinformation pour aider les gouvernements africains. À l'instar de la Chine, la Russie possède un avantage concurrentiel sur l'Occident. Ses ventes d'armes ne s'accompagnent pas d'un regard sur les droits de l'homme ou de la gouvernance. L'oligarque Yevgeny Prigozhin, grand ami de Vladimir Poutine, a déjà fait ses preuves sur le continent. Sa société, le groupe Wagner, a fourni les dizaines de mercenaires russes tués le mois dernier en Libye. Wagner est aussi présent en République centrafricaine. Ce sont des soldats russes qui assurent la sécurité personnelle du président Faustin Archange Touadéra. Les gouvernements du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger se tournent également vers Moscou pour obtenir une aide militaire pour combattre les djihadistes. Le commerce entre la Russie et l'Afrique se levait à environ 20 milliards de dollars, soit la moitié des échanges avec la France et 10 fois moins que la Chine, alors que les échanges entre l'Union européenne et l'Afrique sont évalués à plus de 300 milliards de dollars par an.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Promouvoir le potentiel technologique inexploité de l'Afrique tout en faisant du continent le plus grand centre de production en termes de main d'œuvre technologique au monde. C'est en substance ce qu'ont retenu les participants à la toute première conférence des développeurs africains qui s'est tenue le week-end dernier à Addis Abeba en Éthiopie. L'Afrique DevCom a réuni les professionnels du développement informatique dans un cadre dynamique pour échanger et inspirer. Pour en savoir davantage, Arzuma Compaoré a joint Abou Koné de la start-up ivoirienne Akil Technology et Tierno Nang, manager pour l'Afrique francophone de Gebeya, la structure qui a organisé cette convention.
L'enjeu d'une conférence telle que celle-là, c'est de faire en sorte que les gens se regroupent, partagent, apprennent de nouvelles choses et surtout comprennent que c'est possible de faire beaucoup plus de choses ensemble. Aujourd'hui, c'est de, premièrement donc, de jeter les bases d'une communauté, de faire en sorte que les compétences se parlent, s'organisent et surtout se connaissent.
Tierno Nyang, je rappelle rapidement que vous êtes le responsable pour l'Afrique francophone de Gebeya, qui organise d'ailleurs cette première convention du développeur africain. Vous parlez d'enjeux, mais qu'en est-il des opportunités?
En fait, en technologie, il n'y a presque pas de barrière. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un laptop et une bonne connexion, de la créativité et du travail. Contrairement à des projets d'infrastructure, il faut des financements assez complexes pour créer un logiciel qui peut sauver des vies. Il faut juste ces éléments-là. Plus en plus de jeunes talents, que ce soit hommes ou femmes, ne demandent qu'à s'exprimer. Et je pense que la technologie et l'informatique est le médium le plus efficace pour cette tranche de la population qui est de plus en plus importante pour aller de l'avant.
Alors, Monsieur Nyang, vous êtes avec Monsieur Abou Koné d'Akil Technology. Monsieur Koné, qu'est-ce qui définit aujourd'hui le développeur africain?
Je pense que ce qui est intéressant à propos du développeur africain, c'est, je pense, notre éducation déjà. Elle a certaines déficiences, ce qui est vrai, mais on a une tendance à mettre l'accent sur les STEM, les sciences, la technologie. C'est quelque chose qui est valorisé chez nous, où on pousse les enfants toujours à poursuivre dans les études, dans ce monde de la technologie maintenant. Est-ce qu'on peut faire confiance à nos compétences locales? Et c'est à cette question que nous, on veut répondre emphatiquement, oui. Nous avons les compétences locales pour répondre aux problèmes locaux. On est conscient que ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain ou dans les 5 prochaines années. On en discutait ce matin dans un des panels dans la conférence. On pense que c'est quelque chose qui va... Il y a une génération, peut-être nous, qui devra se sacrifier pour que ceux qui viennent après puissent en tirer les fruits.
La Chine, l'Inde, les Philippines sont connues pour leur forte présence dans le domaine du développement informatique international et surtout l'externalisation ou la sous-traitance des tâches informatiques. Quelle place pour l'Afrique?
Disons que l'Afrique n'est pas encore connue comme une destination de outsourcing, au même titre que les Philippines ou l'Inde. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille. C'est quelque chose, comme je dis, c'est un travail qui va prendre du temps. C'est un travail de longue haleine, mais on pose les jalons chaque jour.
Notre idée, c'est qu'il faut se positionner dès maintenant Et dès maintenant, c'est quoi? C'est d'abord par rapport à la qualité. Donc, viser quelques mandats, quelques succès, parce qu'on est sûr de les contrôler pendant ce temps, travailler sur le facteur quantité. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'asseoir la demande. Donc, que ce soit le privé en interne, mais aussi l'État, les gouvernements qui supportent aussi cet écosystème, vont faire en sorte que non seulement mais la demande est là à court terme, à moyen terme, mais surtout, et le plus important, c'est à long terme. On connaît surtout l'Afrique par rapport à sa créativité et à l'art, mais il y a d'une certaine façon, le développement, c'est de l'art et de la créativité.
Exactement.
Et donc, si on nous connaît pour ça, je pense qu'on n'aura pas de mal aussi à se faire connaître dans ce secteur.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de votre écoute. Excellente soirée à tous.
VOA Afrique.